Honoré de Balzac. Illusion perdue. Cinquante-deux. À 11 heures du soir, Lucien, sa sœur, sa mère et le père Séchard, Marion et Kolb furent réveillés par la musique de la ville à laquelle s'étaient réunies celles de la garnison et trouvèrent la place du Mûrier pleine de monde. Une sérénade fut donnée à Lucien Chardon de Rubempré par les jeunes gens d'Angoulême. Lucien se mit à la fenêtre de sa sœur et dit au milieu du plus profond silence, après le dernier morceau, « Je remercie mes compatriotes de l'honneur qu'ils me font. Je tâcherai de m'en rendre digne. Ils me pardonneront de ne pas en dire davantage. Mon émotion est si vive que je ne saurais continuer. »«
Vive l'auteur de l'Archer de Charles IX ! Vive l'auteur des Marguerites ! Vive Lucien de Rubempré !»
Après ces trois salves, criées par quelques voix, trois couronnes et des bouquets furent adroitement jetés par la croisée dans l'appartement. 10 minutes après, la place du Mûrier était vide, le silence y régnait.
« J'aimerais mieux 10 000 francs, dit le vieux Séchard, qui tourna, retourna les couronnes et les bouquets d'un air profondément narquois.
« Mais vous leur avez donné des marguerites, ils vous rendent des bouquets, vous faites dans les fleurs. »
Voilà l'estime que vous faites, des honneurs que me décernent mes concitoyens, s'écria Lucien,
dont la physionomie offrit une expression entièrement dénuée de mélancolie et qui, véritablement, rayonna de satisfaction.
Si vous connaissiez les hommes, papa Séchard, vous verriez qu'il ne se rencontre pas deux moments semblables dans la vie. Il n'y a qu'un enthousiasme véritable à qui l'on puisse devoir de semblables triomphes.
Ceci, ma chère mère et ma bonne sœur, efface bien des chagrins. » Lucien embrassa sa sœur et sa mère, comme l'on s'embrasse dans ces moments où la joie déborde à flots si larges qu'il faut la jeter dans le cœur d'un ami. « Faute d'un ami, disait un jour Bixiou, un auteur ivre de son succès embrasse son portier. »
« Eh bien, ma chère enfant, dit-il à Ève, pourquoi pleures-tu ?
Ah, c'est de joie. »
« Hélas, dit Ève à sa mère avant de se recoucher, et quand elles furent seules, dans un poète il y a, je crois, une jolie femme de la pire espèce. »
« Tu as raison, répondit la mère en hochant la tête.
Lucien a déjà tout oublié, non seulement de ses malheurs, mais des nôtres. » La mère et la fille se séparèrent sans oser se dire toutes leurs pensées. Dans les pays, dévorés par le sentiment d'insubordination sociale, caché sous le mot « égalité », tout triomphe est un de ces miracles qui ne va pas, comme certains miracles d'ailleurs, sans la coopération d'adroits machinistes. Sur 10 ovations obtenues par des hommes vivants, et décerné au sein de la patrie, il y en a 9 dont les causes sont étrangères à l'homme. Le triomphe de Voltaire sur les planches du théâtre français n'était-il pas celui de la philosophie de son siècle ? En France, on ne peut triompher que quand tout le monde se couronne sur la tête du triomphateur. Aussi, les 2 femmes avaient-elles raison dans leur pressentiment ? Le succès du grand homme de province était trop antipathique aux mœurs immobiles d'Angoulême pour ne pas avoir été mis en scène par des intérêts ou par un machiniste passionné, collaboration également perfide. Ève, comme la plupart des femmes d'ailleurs, se défiait par sentiment et sans pouvoir se justifier à elle-même sa défiance. Elle se dit en s'endormant, « Qui donc aime assez ici mon frère pour avoir excité le pays. Les marguerites ne sont d'ailleurs pas encore publiées. Comment peut-on le féliciter d'un succès à venir ? Ce triomphe était en effet l'œuvre de Petit Claud. Le jour où le curé de Marsac lui annonça le retour de Lucien, l'avoué dînait pour la première fois chez Madame de Sénonches, qui devait recevoir officiellement la demande de la main de sa pupille. Ce fut un de ces dîners de famille dont la solennité se trahit plus par les toilettes que par le nombre des convives. Quoiqu'en famille, on se sait en représentation et les intentions percent dans toutes les contenances. Françoise était mise comme en étalage. Madame de Sénonches avait arboré les pavillons de ses toilettes les plus recherchés. Monsieur du Hautoy était en habit noir. Monsieur de Sénonches, à qui sa femme avait écrit l'arrivée de Madame du Châtelet, qui devait se montrer pour la première fois chez elle, et la présentation officielle d'un prétendu pour Françoise, était revenu de chez Monsieur de Pimentel. Cointet, vêtu de son plus bel habit marron à coupe ecclésiastique, offrit au regard un diamant de 6 000 francs sur son jabot, la vengeance du riche commerçant sur l'aristocrate pauvre. Petit Claud, épilé, peigné, savonné, n'avait pu se défaire de son petit air sec. Il était impossible de ne pas comparer cet avoué maigrelet, serré dans ses habits, à une vipère gelée. Mais l'espoir augmentait si bien la vivacité de ses yeux de pie, il mit tant de glace sur sa figure, il se gourma si bien, qu'il arriva juste à la dignité d'un petit procureur du roi ambitieux. Madame de Sénonches avait prié ses intimes de ne pas dire un mot sur la première entrevue de sa pupille avec un prétendu, ni de l'apparition de la préfète, en sorte qu'elle s'attendit à voir ses salons pleins. En effet, Monsieur le préfet et sa femme avaient fait leur visite officielle par carte, en réservant l'honneur des visites personnelles comme un moyen d'action. Aussi, l'aristocratie d'Angoulême était-elle travaillée d'une si énorme curiosité que plusieurs personnes du camp de Chandour se proposèrent de venir à l'hôtel Bargeton, car on s'obstinait à ne pas appeler cette maison l'hôtel de Sénonches. Les preuves du crédit de la comtesse du Châtelet avaient réveillé bien des ambitions, et d'ailleurs, on la disait tellement changée à son avantage que chacun voulait en juger par soi-même. En apprenant de Cointet, pendant le chemin, la grande nouvelle de la faveur que Zéphirine avait obtenue de la préfète pour pouvoir lui présenter le futur de la chère Françoise, Petit Claud se flatta de tirer parti de la fausse position où le retour de Lucien mettait Louise de Nègrepelisse. Monsieur et Madame de Sénonches avaient pris des engagements si lourds en achetant leur maison qu'en gens de province, ils ne s'avisèrent pas d'y faire le moindre changement. Aussi, le premier mot de Zéphirine à Louise fut-il, en allant à sa rencontre, quand on l'annonça, « Ma chère Louise, voyez, vous êtes encore ici, chez vous !» en lui montrant le petit lustre à pendeloques, les boiseries et le mobilier qui, jadis, avait fasciné Lucien. « C'est, ma chère, ce que je veux le moins me rappeler !» dit gracieusement Madame la préfète en jetant un regard autour d'elle pour examiner l'assemblée. Chacun s'avoua que Louise de Nègrepelisse ne se ressemblait pas à elle-même. Le monde parisien, où elle était restée pendant 18 mois, les premiers bonheurs de son mariage, qui transformaient aussi bien la femme que Paris avait transformé la provinciale, l'espèce de dignité que donne le pouvoir, tout faisait de la comtesse du Châtelet une femme qui ressemblait à Madame de Bargeton comme une fille de 20 ans ressemble à sa mère. Elle portait un charmant bonnet de dentelle et de fleurs, négligemment attaché par une épingle à tête de diamant. Ses cheveux à l'anglaise lui accompagnaient bien la figure et la rajeunissaient en en cachant les contours. Elle avait une robe en foulard, à corsage en pointe, délicieusement frangée, et dont la façon, due à la célèbre Victorine, faisait bien valoir sa taille. Ses épaules, couvertes d'un fichu de blonde, étaient à peine visibles sous une écharpe de gaze adroitement mise autour de son cou trop long. Enfin, elle jouait avec ses jolies bagatelles, dont le maniement est l'écueil des femmes de province. Une jolie cassolette pendait à son bracelet par une chaîne. Elle tenait, dans une main, son éventail et son mouchoir roulé, sans en être embarrassée. Le goût exquis des moindres détails, la pose et les manières copiées de Madame d'Espard révélaient en Louise une savante étude du faubourg Saint-Germain. Quant au vieux beau de l'Empire, le mariage l'avait avancé comme ses melons qui, de vert encore la veille, deviennent jaunes dans une seule nuit. En retrouvant sur le visage épanoui de sa femme la verdeur que Sixte avait perdue, on se fit, d'oreille à oreille, des plaisanteries de province, et d'autant plus volontiers que toutes les femmes enrageaient de la nouvelle supériorité de l'ancienne reine d'Angoulême. Et le tenace intrus dut payer pour sa femme. Excepté Monsieur de Chandour et sa femme, feu Bargeton, Monsieur de Pimentel et les Rastignac, le salon se trouvait à peu près aussi nombreux que le jour où Lucien y fit sa lecture, car Monseigneur l'évêque arriva suivi de ses grands vicaires. Petit Claud, saisi par le spectacle de l'aristocratie angoumoisine, au cœur de laquelle il désespérait de se voir jamais 4 mois auparavant, sentit sa haine contre les classes supérieures se calmer. Il trouva la comtesse Châtelet ravissante en se disant « Voilà pourtant la femme qui peut me faire nommer substitut. » Vers le milieu de la soirée, après avoir causé pendant le même temps avec chacune des femmes, en variant le ton de son entretien selon l'importance de la personne et la conduite qu'elle avait tenue à propos de sa fuite avec Lucien, Louise se retira dans le boudoir avec Monseigneur. Zéphirine prit alors le bras de Petit Claud, à qui le cœur battit, et l'amena vers ce boudoir où les malheurs de Lucien avaient commencé et où ils allaient se consommer. « Voici Monsieur Petit Claud, ma chère. Je te le recommande d'autant plus vivement que tout ce que tu feras pour lui profitera sans doute à ma pupille. » « Vous êtes avoué, monsieur ? » dit l'auguste fille des Nègrepelisse en toisant Petit Claud. « Hélas, oui, madame la comtesse. » Jamais le fils du tailleur de Loumeau n'avait eu dans toute sa vie une seule fois l'occasion de se servir de ces 3 mots. Aussi sa bouche en fut-elle comme pleine. « Mais, reprit-il, il dépend de madame la comtesse de me faire tenir debout au parquet. Monsieur Milot va, dit-on, à Nevers. » « Mais, reprit la comtesse, n'est-on pas second, puis premier substitut ? Je voudrais vous voir sur le champ premier substitut. Pour m'occuper de vous et vous obtenir cette faveur, je veux quelque certitude de votre dévouement à la légitimité, à la religion, et surtout à Monsieur de Villèle. « Oh, madame, dit Petit Claud en s'approchant de son oreille, je suis homme à obéir absolument au pouvoir. » « C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, répliqua-t-elle, en se reculant pour lui faire comprendre qu'elle ne voulait plus rien s'entendre dire à l'oreille. « Si vous convenez toujours à madame de Sénonches, comptez sur moi, » ajouta-t-elle en faisant un geste royal avec son éventail. « Madame, » dit Petit Claud, à qui Cointet se montra en arrivant à la porte du boudoir, « Lucien est ici. »«
Eh bien, monsieur, »
répondit la comtesse, d'un ton qui eût arrêté toute espèce de parole dans le gosier d'un homme ordinaire.
« Madame la comtesse ne me comprend pas, » reprit Petit Claud en se servant de la formule la plus respectueuse. « Je veux lui donner une preuve de mon dévouement à sa personne. Comment, madame la comtesse, veut-elle que le grand homme qu'elle a fait soit reçu dans Angoulême ? Il n'y a pas de milieu. Il doit y être un objet, ou de mépris, ou de gloire. »
Louise de Nègrepelisse n'avait pas pensé à ce dilemme, auquel elle était évidemment intéressée, plus à cause du passé que du présent. Or, des sentiments que la comtesse portait actuellement à Lucien dépendait la réussite du plan conçu par l'avoué pour mener à bien l'arrestation de Séchard.
Monsieur Petit Claud, dit-elle en prenant une attitude de hauteur et de dignité, vous voulez appartenir au gouvernement. Sachez que son premier principe doit être de ne jamais avoir eu tort, et que les femmes ont encore mieux que les gouvernements l'instinct du pouvoir et le sentiment de leur dignité.
C'est bien là ce que je pensais, madame, répondit-il vivement en observant la comtesse avec une attention aussi profonde que peu visible. Lucien arrive ici dans la plus grande misère, mais il doit y recevoir une ovation, je puis aussi le contraindre, à cause de l'ovation même, à quitter Angoulême, où sa sœur et son beau-frère David Séchard sont sous le coup de poursuites ardentes.
Louise de Nègrepelisse laissa voir sur son visage altier un léger mouvement, produit par la répression même de son plaisir. Surprise d'être si bien devinée, elle regarda Petit Claud en dépliant son éventail, car Françoise de la Haye entrait, ce qui lui donna le temps de trouver une réponse.
« Monsieur, dit-elle avec un sourire significatif, vous serez promptement procureur du roi. »
N'était-ce pas tout dire sans se compromettre ?
Oh, madame ! S'écria Françoise en venant remercier la préfète. Je vous devrai donc le bonheur de ma vie.
Elle lui dit à l'oreille, en se penchant vers sa protectrice par un petit geste de jeune fille, je serais morte à petit feu d'être la femme d'un avoué de province. Si Zéphirine s'était ainsi jetée sur Louise, elle y avait été poussée par Francis, qui ne manquait pas d'une certaine connaissance du monde bureaucratique.
Dans les premiers jours de tout avènement, que ce soit celui d'un préfet, d'une dynastie ou d'une exploitation, dit l'ancien consul général à son ami, on trouve les gens tout feu pour rendre service. Mais ils ont bientôt reconnu les inconvénients de la protection et deviennent de glace. Aujourd'hui, Louise fera pour Petit Claud des démarches que, dans 3 mois, elle ne voudrait plus faire pour votre mari.
« Madame la comtesse, pense-t-elle, dit Petit Claud, à toutes les obligations du triomphe de notre poète ? Elle devra recevoir Lucien pendant les 10 jours que durera notre engouement. »
La préfète fit un signe de tête afin de congédier Petit Claud et se leva pour aller causer avec madame de Pimentel qui montra sa tête à la porte du boudoir. Saisie par la nouvelle de l'élévation du bonhomme de Nègrepelisse à la pairie, la marquise avait jugé nécessaire de venir caresser une femme assez habile pour avoir augmenté son influence
en faisant une faute. Dites-moi donc, ma chère, pourquoi vous vous êtes donné la peine de mettre votre père à la chambre haute ? Dit la marquise au milieu d'une conversation confidentielle où elle pliait le genou devant la supériorité de sa chère Louise. Ma chère, on m'a d'autant mieux accordé cette faveur que mon père n'a pas d'enfant et votera toujours pour la couronne. Mais si j'ai des garçons, je compte bien que mon aîné sera substitué au titre, aux armes et à la pairie de son grand-père. » Madame de Pimentel vit avec chagrin qu'elle ne pourrait pas employer à réaliser son désir de faire élever M. de Pimentel à la pairie, une mère dont l'ambition s'étendait sur les enfants à venir. « Je tiens la préfète, » disait Petit Claud à Cointet en sortant, « et je vous promets votre acte de société. Je serai dans un mois premier substitut, et vous, vous serez maître de Séchard. Tâchez maintenant de me trouver un successeur pour mon étude. J'en ai fait en 5 mois la première d'Angoulême. »
« Il ne fallait que vous mettre à cheval, » dit Cointet, presque jaloux de son œuvre.
Chacun peut maintenant comprendre la cause du triomphe de Lucien dans son pays. À la manière de ce roi de France qui ne vengeait pas le duc d'Orléans, Louise ne voulait pas se souvenir des injures reçues à Paris par Madame Bargeton. Elle voulait patronner Lucien, l'écraser de sa protection et s'en débarrasser honnêtement. Mise au fait de toute l'intrigue de Paris par les commérages, Petit Claud avait bien deviné la haine vivace que les femmes portent à l'homme qui n'a pas su les aimer à l'heure où elles ont eu l'envie d'être aimées.